Je me souviens que lorsque moi j'étais à l'Institut biblique, un prof nous a dit une fois que c'était bien d'avoir repéré des passages dans la Bible auxquels on peut revenir constamment, sans cesse, pour nourrir notre foi et notre ministère en temps de sécheresse, ou lorsque nous sommes particulièrement conscients de notre faiblesse. Et pour moi, l'épître de Paul à son collaborateur Tite est un de ces puits d'eau fraîche qui me fait du bien. Alors, c'est une lettre qui m'aide à garder le cap. Elle me montre les enjeux du ministère. Elle me montre les moyens que Dieu nous donne pour poursuivre ce ministère. Elle m'aide à estimer à sa juste valeur le ministère, la charge pastorale. Et elle me motive à aller de l'avant pour l'amour de nos frères et sœurs et pour l'honneur de l'Évangile, pour la gloire de Dieu. Alors, c'est un peu à la mode de nos jours de parler d'un ministère centré sur l'Évangile, de la centralité de l'Évangile dans le ministère. Il s'agit d'une bonne mode. Et cette épître a été écrite, je le pense, pour aider Tite à vivre ce ministère centré sur l'Évangile et à faire en sorte que de multiples ministères centrés sur l'Évangile, nourris de la grâce, enracinés en Jésus-Christ, portés vers l'accomplissement de l'espérance chrétienne, fructueux en bonnes œuvres, foisonnent sur l'île de Crète, là où Tite se trouvait au moment de recevoir cette lettre. Et bien sûr, au-delà, bien au-delà, même jusqu'à nous en Belgique et en France, parce que selon sa providence divine, Dieu a donné cette lettre personnelle à toute l'Église, pour que chaque Église, où qu'elle se trouve, quelle que soit son époque, puisse vivre un tel ministère centré sur l'Évangile. Alors j'aimerais vous inviter à la lecture de ce passage qui se trouve dans l'Épître de Tite, et nous sommes au chapitre 1. Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, selon la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu et selon la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle. Cette vie, Dieu qui ne ment pas, l'a promise avant les temps éternels. Et en son temps, il a manifesté sa parole dans la proclamation qui m'a été confiée, à moi, par ordre de Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon enfant véritable selon notre commune foi. Grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes bon ordre à ce qui restait à régler et que tu nommes les anciens dans chaque ville, selon ce que je t'ai moi-même prescrit. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit sans reproche, homme d'une seule femme, ayant des enfants croyants qui ne soient ni accusés de débauche, ni insoumis. Il faut en effet que l'épiscope soit sans reproche, puisqu'il est un intendant de Dieu qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'insoumis, de discoureurs futiles et de marchands d'illusions, surtout parmi les incirconcis, les circoncis plutôt. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des maisons entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour des gains honteux. L'un d'eux, le propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, glouton paresseux. » Ce témoignage est vrai, aussi reprends-le sévèrement, afin qu'il soit saint dans la foi. Au lieu de s'attacher à des fables juives et à des commandements d'humains qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et sans foi. Leur intelligence comme leur conscience sont souillées. Ils déclarent connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à toute œuvre bonne. Jusqu'ici, la parole inhérente de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à partir de ce chapitre, et bien sûr, on ne va que les effleurer ce matin, mais j'espère, et c'est ma prière, que ce message nous donne un échantillon suffisamment riche pour que nous ayons envie d'étudier de plus près ce livre, qui est certes bref, mais riche pour l'Église. Nous allons voir dans un premier temps, dans les quatre premiers versets, à quel point la proclamation de l'Évangile est vitale, à quel point la proclamation de l'Évangile est vitale. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons la saine cohérence de la saine doctrine, la saine cohérence de la saine doctrine. Et finalement, dans un troisième temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va méditer sur la cruauté pastorale de l'hérésie. Alors, selon son habitude, l'apôtre Paul a bien réfléchi à l'introduction de sa lettre. Oui, il nous donne quelques informations de base, un peu à la mode de nos emails. Cette lettre vient de Paul. Et elle a pour destinataire Tite. Tite qui n'est pas n'importe qui pour Paul, mais son fils bien-aimé dans leur foi commune. Verset 4. On sent là toute la tendresse de cette parole, de cette lettre pastorale. Et c'est vrai que ce ministère, le ministère crée ce genre de tendresse parce que nous luttons ensemble dans cette foi commune. Nous sommes frères et sœurs du même Père, du même grand frère, Jésus-Christ. Le ministère que Dieu nous a donné n'est pas un ministère solitaire, n'est pas juste un ministère de professionnels qui ont acquis certaines compétences. Mais il est un ministère profondément familial dans le Seigneur. Alors, comment est-ce que Paul, l'apôtre Paul, comprend ce ministère familial? Et là, dans les versets 1 à 3, Paul nous donne beaucoup de détails. Je relis les versets 1 à 3. Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, selon la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu et selon la connaissance de la vie éternelle, selon la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle. Cette vie, Dieu qui ne ment pas, l'a promise avant les temps éternels. Et en son temps, il a manifesté sa parole dans la proclamation qui m'a été confiée, à moi par ordre de Dieu notre Sauveur. Mais on voit d'emblée que les idées sont construites de manière précise et dense chez Paul. Et vous savez, c'est pour ça que ça vaut la peine d'apprendre le grec en institut biblique. Le prédicateur a besoin de passer pas mal de temps à examiner ses phrases et leur syntaxe. C'est un travail nécessaire qui porte du fruit et qui nous montre également où Paul veut en venir dans cette épître. Ce qu'il dévoile dans ces versets nous prépare pour toute la suite et nous aide à bien interpréter la suite. Si nous avons déjà qui a envoyé la lettre et qui en est le destinataire, ces versets nous révèlent l'objet de sa lettre. En fait, ils nous révèlent le pourquoi de la mission de Paul, son but dans le ministère. Et bien sûr, cela n'est pas sans lien avec le but que Tite a également dans le ministère et le but que nous avons également dans le ministère. Certes, nous ne sommes pas des apôtres de Jésus-Christ comme Paul, mais nous sommes des esclaves de Dieu. Et la suite de la lettre montre bien que Tite est appelé à poursuivre le ministère de Paul, à faire comme lui, et nous aussi nous sommes appelés à faire de même. Alors, quelle est sa mission? Quel est son ministère? D'abord, il s'agit d'un ministère en faveur des élus, ceux que Dieu a choisis. On voit, on lit, selon la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu. Il ne s'agit pas d'un ministère envers nos convertis, nos brebis, notre Église, mais envers son peuple. Celui que selon sa grâce souveraine, Dieu lui-même a pris l'initiative de sauver. Alors si nous voulons un ministère qui rend gloire à Dieu, qui lui donne la gloire, il convient de ne pas oublier ce point. Notre ministère est en faveur de son peuple, non pas le nôtre. Notre but, c'est de fortifier la foi de son peuple, le peuple de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons que ce ministère est selon la connaissance de la vérité. La foi du peuple de Dieu sera fortifiée au fur et à mesure qu'il grandit dans la connaissance de la vérité, celle qui concerne Jésus. On va revenir à ce point dans la suite de ce message, mais il est capital. Le peuple de Dieu a besoin d'une connaissance de la vérité, une connaissance de l'Évangile, une connaissance de notre Dieu trinitaire. Et cette connaissance est vitale. C'est pour ça que vous êtes à l'Institut ici à Bruxelles, pour grandir vous-même dans cette connaissance de l'Évangile, sans laquelle vos ministères ne peuvent pas fortifier la foi du peuple de Dieu. Dans la suite de cette lettre, Paul va évoquer à pas mal de reprises la connaissance de cette vérité. Au chapitre 2, il va parler de l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Il va évoquer la grâce qui y a été manifestée. Il va nous parler de notre sanctification en Jésus-Christ, le fait que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes en lui. Au chapitre 3, il va parler de la régénération, la nouvelle naissance. Il va la lier à la justification par la foi seule, en vertu de la grâce seule. Il parle de notre adoption en Jésus-Christ. Et partout, on goûte à l'espérance chrétienne de la vie éternelle, l'eschatologie. Alors, c'est un message très saillant et salutaire pour notre époque, parce qu'il y a une pression énorme d'avoir un enseignement pas trop lourd, léger, un enseignement motivant, un enseignement qui divertit et qui touche nos sentiments avant tout. Alors, bien compris, ces choses-là ne sont pas forcément mauvaises. Mais souvent, ça trahit un manque de confiance dans la suffisance de la parole, dans la pertinence de la parole pour toute notre vie, toute la vie chrétienne. Mais le peuple de Dieu, celui que nous servons, a un besoin criant, qu'il en soit conscient ou non, qu'il le réclame ou non, de la connaissance de la vérité, de la saine doctrine. Il a vraiment besoin de mieux comprendre la sainteté de Dieu, sa justice, la gravité du péché. Il a besoin de bien comprendre la justification par la foi seule, en vertu de la grâce seule. Il a vraiment besoin de savoir que la nouvelle naissance est une œuvre souveraine de Dieu en faveur d'hommes et de femmes qui d'eux-mêmes ne peuvent même pas choisir de suivre Dieu. Alors, dans nos milieux, je pense qu'on doit avouer que nous sommes souvent très faibles dans ce domaine. Alors, vous êtes ici à l'Institut pour être formé pour remédier à ça, pour que le peuple de Dieu puisse goûter semaine après semaine à la richesse de la vérité, de la pureté de la doctrine chrétienne. Et nous allons voir dans cet instant que les enjeux sont de taille. Ça vaut la peine, pendant vos années ici à l'Institut, pendant vos années d'études, d'acquérir de bons outils d'études bibliques, de mieux comprendre la doctrine chrétienne, et ça afin d'être en mesure de l'expliquer semaine après semaine de manière claire, de manière succincte, intéressante et fidèle. Alors pourquoi? Parce que cette connaissance n'est pas purement intellectuelle, mais elle est profondément fructueuse et pratique. Alors est-ce que vous voyez ça à la fin du verset 1? Là, nous lisons la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Alors peut-être ce petit mot « piété » ne vous dit pas grand-chose. Il est un mot d'une autre génération, je pense. Alors c'est le mot « eusebia » en grec. Il renvoie à l'idée de la vie qui plaît à Dieu. Une vie ancrée en Dieu, qui est conforme à sa sainteté, qui produit sa sainteté. On peut également parler de la vie heureuse. une vie où Dieu se trouve au centre, où Dieu est honoré, craint et aimé. Ce mot n'apparaît qu'une fois dans cette lettre, mais il s'agit pourtant d'un des thèmes majeurs de cette lettre, la vie qui plaît à Dieu, la vie bonne, la vie fidèle. Nous voyons ce thème dans une autre expression qui revient tout le temps dans cet épître, l'expression « les bonnes œuvres ». Le chapitre 1 parle de responsables d'église qui mettent en pratique ce qu'ils croient. Au chapitre 2, verset 7, Paul exhorte Tite à être un modèle de belles œuvres. Au chapitre 2, verset 14, Paul dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. Au chapitre 3, verset 8, Paul dit « Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. » Et l'avant-dernier verset de la lettre insiste encore une fois là-dessus. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les belles œuvres pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Si nous sommes au Seigneur, si nous avons été pardonnés, justifiés, adoptés, si en vue de porter du fruit, en vue de vivre autrement, à la gloire du Dieu qui nous aime. En passant, on peut dire que ce fruit d'obéissance, c'est ce qui accomplit les desseins de Dieu dans la création. Depuis le début, il voulait un peuple sur cette terre qui l'aime. Il veut un peuple obéissant. Et c'est la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui produit cette nouvelle vie qui honore notre Seigneur et qui finalement nous fait du bien aussi. Elle nous préserve de bien d'écueils pécheurs. Mais comment est-ce que cette connaissance de la vérité produit cette vie d'obéissance, cette vie bonne, cette vie fidèle? Revenons au verset 2. Elle le fait, et on le voit, dans l'espérance de la vie éternelle. Alors, cette logique, Paul va l'expliciter un peu plus loin au chapitre 2, au verset 11 à 14. Mais déjà, on voit sa pensée en germe. La connaissance de Jésus est profondément transformatrice. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne l'assurance ferme de la vie éternelle. Cette vie promise par Dieu dans les Écritures il y a bien des années. Et Dieu est un Dieu qui ne ment pas. On peut faire confiance à ses promesses. Cette promesse promise dès le chapitre 3 de la Genèse, promise à Abraham et à ses descendants. C'est une question d'une bénédiction, la bénédiction d'une vie avec Dieu, dans sa présence, comme ses enfants. Et cette bénédiction nous est donnée, nous est déjà donnée en Jésus-Christ, nous y goûtons déjà, mais on va y goûter de manière plénière dans la vie éternelle. Cette espérance parle de la grâce immense qui est la nôtre en Jésus-Christ. Si nous avons la ferme espérance, la ferme assurance de la vie éternelle, c'est parce que l'œuvre de Jésus est bel et bien suffisante pour nous l'acquérir. Si ça dépendait de nous-mêmes, de nos efforts, on n'aurait au contraire aucune certitude, et même la certitude que nous ne l'aurons pas. Est-ce que vous voyez que c'est l'évangile de la grâce, l'évangile de la grâce qui nous change? Ce n'est pas un ministère où nous insistons sur notre devoir de faire de bonnes œuvres sans parler de Jésus, sans parler de son œuvre achevée ou suffisante. Sans parler de la grâce. Ce n'est pas un ministère comme ça qui va nous changer. Le légalisme ne produit pas de bonnes œuvres. Ce n'est pas non plus un ministère où on parle d'une grâce au rabais, une grâce selon laquelle c'est le métier de Dieu d'être sympa. Une grâce selon laquelle Dieu n'aurait pas d'exigence. Non, c'est un ministère centré sur l'Évangile qui enseigne avec clarté notre besoin criant de la grâce parce que nous sommes des pécheurs, qui enseigne la grandeur de l'œuvre de Jésus à la croix, qui nous montre la, la magnificence de la justification par la foi seule en vertu de l'œuvre de Jésus seul, qui nous montre la sanctification qui est la nôtre en Jésus une fois pour toutes, qui affirme, un ministère qui affirme la grâce épatante de la nouvelle naissance accordée aux hommes morts dans leur péché. C'est la connaissance de la vérité, toute la vérité, dans l'espérance de la vie éternelle, qui nous transforme. C'est la connaissance nourrie de la grâce, enracinée en Jésus, portée vers l'espérance qui produit la vie qui plaît à Dieu. Pourquoi ? Parce que cette connaissance nous libère de la condamnation et elle nous fait entrer dans la présence d'un Dieu qui nous aime. Elle nous donne une nouvelle envie, celle de lui plaire, de plaire à ce Dieu qui nous aime, à plaire à ce Dieu avec qui on va passer l'éternité. Paul finit cette section en disant quelque chose qui peut nous surprendre. Comment est-ce que nous avons cette assurance de la vie éternelle? Nous l'avons certainement parce que Jésus nous l'a gagné à la croix et nous l'a procuré à sa résurrection. Mais ici, Paul met l'accent sur le moyen immédiat de ce salut. On voit qu'il a été manifesté par la proclamation, par la prédication de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous avons cette espérance, c'est parce que la bonne nouvelle nous a été prêchée. Et ça, ça veut dire que la prédication est d'une importance capitale, vitale. Alors moi, je suis sûr que vos cours d'homélétique sont intéressants, stimulants, captivants. Mais plus que ça, ils sont d'une importance extraordinaire parce qu'ils vous équipent pour un ministère par lequel Dieu va donner la vie à ceux qu'il a choisis d'avance pour connaître son Fils. Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans le ministère, beaucoup de choses qui réclament notre attention. Que ce soit un ministère en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'assistante de paroisse, conseiller, conseillère, en relation d'aide, la proclamation de la parole doit rester centrale. Si les gens, si nos frères et sœurs, si les gens vont venir à la foi et être transformés, un ministère centré sur l'Évangile, centré sur la grâce, sera forcément un ministère où la proclamation, la prédication de la parole est centrale. Certes, cette proclamation a l'air parfois très faible. Les gens vont nous dire qu'il y a certainement d'autres moyens à avoir qui semblent plus pertinents à notre époque. Et en plus, nous-mêmes, nous sommes faibles. Les illustrations pertinentes nous manquent. Il y a des passages difficiles que nous avons du mal à expliquer. Nous ne sommes pas tous les orateurs doués qui savent utiliser nos voix ou qui captent facilement l'attention de nos auditeurs avec des anecdotes amusantes. Il n'empêche que Dieu utilise sa parole pour donner la vie. Et dans la mesure où nous restons fidèles à sa parole, sa voix efficace sera entendue. Et Paul veut que Tite en soit convaincu. Il veut que nous en soyons pleinement convaincus aussi. Alors, vous vous préparez à un tel ministère. C'est pour ça que vous faites des études ici à l'Institut biblique belge. Et vos études sont rigoureuses. Oui, c'est parfois très dur. Mais vous savez, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, car il y va de la vie. Il y va de la vie éternelle de ceux à qui vous allez annoncer cette parole. Et c'est le ministère de la parole. Cette parole proclamée semaine après semaine, certes la faiblesse. Cette doctrine expliquée avec fidélité et clarté, bon an, mal an, qui va porter du fruit, qui va transformer d'abord notre propre cœur, mais aussi celui de nos frères et sœurs. J'aimerais avancer un peu et forcément je vais passer un peu moins de temps sur les deux prochaines sections. La saine cohérence et la saine doctrine. Dans les versets 5 à 9, Paul parle de la mission spécifique qu'il a donnée à Tite. Celle de nommer les anciens dans chaque église. Nous n'avons plus la personne de Tite dans nos églises, mais cette lettre a été donnée par Dieu à nos églises pour que nous puissions discerner et nommer des anciens. Et comme il a déjà fait, Paul est soucieux de nous montrer le lien entre la connaissance de la vérité et la vie qui plaît à Dieu qui en découle. Il faut que ce lien entre l'orthodoxie et l'orthopraxie, ou autrement dit, entre la saine doctrine et la vie bonne et fidèle, soit là, soit manifeste dans la vie des hommes qui sont choisis pour ce ministère. Paul énumère un certain nombre de traits de caractère à chercher dans un tel homme. Il évoque sa vie de famille, sa fidélité maritale, sa capacité à gérer sa famille. Il faut chercher des hommes qui ne sont pas avides, portés sur l'argent, ou même sur le prestige du ministère. Quel piège! Mais il faut chercher des hommes humbles, maîtres d'eux-mêmes, pondérés. Paul décrit la vie bonne et fidèle, la vie que l'Évangile produit, la vie qui ressemble à celle de Jésus. Ce n'est pas que les anciens qui doivent produire de tels fruits dans leur vie. C'est la vie à laquelle nous sommes tous appelés, auquel tout chrétien est appelé. Mais parce que nous sommes tous appelés à ressembler à Jésus, c'est d'autant plus important que nos responsables ont commencé à faire des progrès dans chacun de ces domaines. Ils sont nos modèles. Oui, on enseigne verbalement, mais comme Paul invitait parfois ses lecteurs à l'imiter, qu'on le veuille ou non, ceux qui suivent notre enseignement scrutera aussi notre foi. Et par la force des choses, ils vont nous imiter. Ça, c'est une pensée qui devrait nous rendre bien sobres. Il suffit de penser à tous les enfants de nos églises qui nous regardent. Oula, ils nous regardent de près. Et la vie de l'ancien démontre, qu'il le veuille ou non, à quel point il a lui-même compris et accepté l'Évangile. Tout l'Évangile dans toute sa splendeur, parce que c'est l'Évangile lui-même qui produit de tels fruits. Un des objectifs de l'IBB, c'est la rigueur dans l'étude de la parole. Et cet objectif va de pair avec un des autres objectifs de l'Institut, celui de l'importance de la croissance des étudiants dans la maturité spirituelle. On peut être rigoureux dans l'étude de la parole sans grandir dans la maturité spirituelle, c'est possible. On peut juste rechercher des connaissances théologiques pour être en mesure d'avoir de bonnes notes. Mais si la parole est vraiment crue, méditer, chérie. Si nos cœurs s'y soumettent en toute humilité, cette parole va nous transformer. Et nous serons des serviteurs vraiment utiles pour nos frères et sœurs. Alors peut-être que vous ne serez jamais pasteur ou ancien dans une église, mais vous serez sans doute un jour appelé à choisir un pasteur, à voter sur la candidature d'un ancien. Sa vie est d'une importance capitale. Elle vous montre à quel point cet homme a compris et accepté l'Évangile. C'est l'Évangile que vous et vos frères et sœurs avez besoin d'entendre semaine après semaine dans toute sa richesse si vous allez grandir dans la foi, si vous allez ressembler davantage à Jésus. Alors, mais au-delà de sa vie exemplaire, il lui faut quelques compétences dans la parole aussi. Il y en a qui ont et qui développent ses compétences, et d'autres qui n'en ont pas et qui ont tout simplement d'autres dons. Ce n'est pas la peine de choisir quelqu'un parce qu'il a un travail stable ou impressionnant aux yeux du monde, ou s'il est simplement quelqu'un de bien, ou s'il est le moins mauvais des gens disponibles. Mais pour le bien de l'Église, il faut qu'il sache enseigner les Écritures. Sans cette doctrine, comment est-ce que ceux que Dieu a choisis vont l'entendre et recevoir la vie éternelle? Comment est-ce que nous allons grandir en maturité spirituelle? Alors, ce n'est pas facile dans nos milieux francophones, dans nos églises francophones, où on manque de chrétiens mûrs, où parfois nos conseils d'église manquent cruellement d'anciens. Ce n'est pas facile parce que la tentation, c'est de mettre quelqu'un là qui n'est pas vraiment à sa place. Et les conséquences peuvent se révéler désastreuses. Le verset 9 nous dit qu'il faut qu'il soit attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Alors on voit que c'est un travail d'enseignement positif et négatif. Il faut qu'on soit assez futé, non seulement pour exposer avec clarté les Écritures, enseigner fidèlement les doctrines du péché, de la justification, mais assez clairvoyant. Et surtout, assez courageux pour exposer ce qui est faux, ce qui mine la vérité. Nos églises ont besoin de pasteurs, d'anciens qui peuvent relever la barre et enseigner plus clairement, plus fidèlement. Et ça pour que nous puissions grandir et porter du fruit. Elles ont aussi besoin de pasteurs qui aiment assez la parole, qui aiment assez les brebis du Seigneur pour les protéger de faux enseignements. Parce que tout faux enseignement est forcément cruel. Ça, c'est ce que nous voyons dans cette dernière partie, les versets 10 à 16. La cruauté de l'hérésie. C'est un titre que j'ai piqué d'un livre d'un évêque anglican aux États-Unis. Je trouve ce titre vraiment parlant. On voit bien l'enjeu pastoral de cette lettre, de ce thème. Et encore une fois, dans cette partie, nous voyons le lien entre la saine doctrine et la vie qui plaît à Dieu. Sauf qu'ici, c'est l'inverse. La fausse doctrine, c'est la fausse doctrine qui mène à la vie qui déplaît à Dieu. Le verset 16 l'explique succinctement. Ils déclarent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à toute œuvre bonne. C'est vrai, certains vont déclarer connaître Dieu. Certains vont même déclarer qu'ils peuvent enseigner la bonne doctrine évangélique. Mais c'est leur vie qui vont révéler que ce n'est pas le cas. Et les conséquences sont dramatiques. Est-ce que vous voyez ça au verset 11? Le verset 11 nous dit que des maisons entières sont bouleversées. Lorsque notre enseignement est médiocre, pas très clair, dilué, lorsqu'il nie la justesse du juste jugement de Dieu, la gravité du péché, lorsqu'il ne présente pas Jésus-Christ et son œuvre suffisante dans toute sa grandeur, lorsqu'il s'agit simplement d'une recette pour aller mieux dans la vie, pour être émotionnellement plus épanoui, pour vivre une meilleure vie ici-bas, plus riche, plus en sécurité, avec une belle famille, vous savez, ça se révèle tôt ou tard cruel. Parce que ça déstabilise les croyants, ça les éloigne du Seigneur et leur foi est affaiblie. Eux aussi commencent à porter du mauvais fruit. La générosité cède à l'égoïsme, les paroles édifiantes à la médisance. Ils risquent de ne pas persévérer dans la foi. Et si on aime le peuple de Dieu, et si on aime la parole de Dieu, on ne peut pas laisser faire. Paul a dit à Tite, Paul lui a demandé de faire quelque chose, de les reprendre sévèrement. Vous savez, c'est jamais facile de faire ça. Certains vont dire, pour qui est-ce que vous vous prenez? Ils auraient pu dire la même chose à Tite. En le faisant, c'est vrai, il faut être sûr qu'on le fait parce qu'on aime la vérité et parce qu'on aime nos frères et sœurs. Mais si on les aime, on le fera. Car les enjeux sont de taille, rien de moins que la vie éternelle. Nos églises en Belgique, nos églises en France ont vraiment besoin de l'Évangile, celui de la grâce, celui qui donne la vie éternelle, centré sur Jésus-Christ, cet Évangile centré sur lui, porté sur notre espérance. Nos églises ont besoin d'enseignants, de pasteurs, d'anciens, moniteurs d'école du dimanche, assistants de paroisse et ainsi de suite, qui aiment cette parole, qui s'y soumettent, qui en vivent jour après jour. Ils ont besoin de pasteurs et anciens qui peuvent l'enseigner avec clarté, qui sont enracinés dans la saine doctrine et qui travaillent dur pour que tout le conseil de Dieu soit exposé, prêché avec fidélité semaine après semaine. Je vous invite à vraiment profiter de vos études cette année, de profiter au maximum pour grandir dans la clarté doctrinale, pour être équipé pour l'exégèse rigoureuse. Les cours sur la justification, la régénération, je ne sais pas quels cours vous avez cette année, mais peut-être les cours sur l'élection, l'eschatologie, la christologie, le salut. En fait, ces cours ne sont pas que des cours pour avoir des notes ou pour enfin finir avec les études et vraiment commencer le ministère que vous souhaitez faire. Non, vraiment, votre santé personnelle, votre santé spirituelle en dépend et la santé spirituelle de nos églises en dépend. Bien sûr, profitez-en avec un esprit d'humilité et de prière. Parce que c'est Dieu, par son esprit, qui applique ses vérités à nos cœurs pour que nous portions du fruit. Il n'y a que lui qui peut nous changer, qui peut renouveler notre intelligence. Prions que le Seigneur nous donne cet esprit d'humilité, cet amour pour sa parole et pour son peuple. Je vous invite à la prière.